Bonsoir à tous. En grève jusqu'à la retraite, l'un des slogans demain dans la rue contre le projet de réforme du gouvernement. Très peu de trains, de nombreuses écoles fermées et 6000 forces de l'ordre à Paris pour la manifestation entre Gare de l'Est et Nation. Au sommaire également ce soir, une plainte pour discrimination homophobe contre l'agence de l'adoption. Jean-François Copé soutenu par En Marche à Meaux, une Vénus préhistorique découverte à Amiens. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, on a regardé l'enquête PISA sur le niveau des élèves en France. Et ce qui a surtout saisi notre attention, c'est que la France reste championne des inégalités. Et on s'arrête sur cet écart entre élèves défavorisés et élèves favorisés. On parle de carte scolaire. Bien sûr, on parle de difficultés financières, mais aussi de difficultés à se projeter dans l'avenir. Et on en parle au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est Jacques Chirac qui résumait dans une formule bien à lui ces moments politiques où les emmerdes volent toujours en escadrille. Eh bien, c'est un peu ça cette semaine pour Emmanuel Macron, la grève massive demain et peut-être au-delà contre sa réforme des retraites, on va y venir bien sûr. Et puis ce cap franchi aujourd'hui, cap symbolique, mais dont il avait fait lui-même une possible étape clé dans la quête du RIP. Désormais plus d'un million de signatures pour le projet de référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Alors on est loin du compte. Pour que la proposition de loi soit validée, 4 700 000 paraphes. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Mais ça suffit à ses partisans pour remettre la pression sur l'exécutif.
Eh oui, c'est déjà pour une victoire célébrée ce midi devant l'Assemblée. 6 mois de collecte sous les radars et ce sentiment d'avoir fait le plus dur pour les députés Gilles Carrez et Jean Lassalle.
Tous les obstacles ont été mis en place par l'exécutif pour que ça ne marche pas. Pas le début de l'ombre d'une information publique. Un site qui était quand même d'un maniement très difficile. Malgré tout, plus d'un million.
C'est le premier million, c'est le premier millimètre de tour de roue quand vous êtes en panne à qui compte. Oui, je pense qu'on peut aller au bout.
Il est quasiment le seul à y croire encore. Jean-Luc Mélenchon préfère, lui, mettre la pression sur Emmanuel Macron.
Le président pourrait être pris un peu au piège de sa propre parole, puisqu'il a dit qu'il voulait abaisser le niveau à partir duquel on pourrait proposer un référendum. C'est-à-dire qu'au lieu de 4 millions, il n'y aurait que 1 million. Ben, très bien, commencez maintenant, monsieur le président.
Et il réclame un rendez-vous avec lui à l'Élysée, mais ça n'a pas l'air d'émouvoir la majorité. Voici la réponse très sèche de la marcheuse Olivia Grégoire.
Alors, ce qui est formidable dans ce pays, c'est qu'il y a une constitution. Il y a aussi 2-3 institutions intéressantes comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Je rappelle, à bon escient, qu'il faut mobiliser à peu près 10% donc du corps électoral, soit aux alentours de quasiment 4 millions de signatures. Donc j'entends bien ce qui est dit, mais en tout cas ça ne change rien à la donne.
Circuler, il n'y a rien à voir, puisque la promesse présidentielle d'avril n'est pas encore inscrite dans la Constitution. La privatisation n'est que suspendue.
Suspendue jusqu'à la clôture des signatures le 12 mars. Merci Maxence Lambrecq. Avant cette date, c'est celle de demain qui nous préoccupe évidemment, ce 5 décembre. Contre la réforme des retraites, appel à la grève illimitée d'abord chez les cheminots. L'exécutif redoute un nouveau 95. Le mouvement a débuté à la SNCF qui prévoit moins de 10% du trafic. Delphine Evenou et Gare Montparnasse à Paris où se croisent Grande Ligne et Transilien et où les voyageurs sont déjà touchés.
Main nerveuse sur la borne automatique.
Évidemment, deuxième classe complet.
Ah, Yann repart pour Le Mans plutôt que d'habitude, un peu plus agacé aussi.
C'est pas possible. Vous voyez, c'est déjà plein.
Poussa tes bagages autour d'elle, Gabrielle, elle a anticipé.
On allait voyager demain de l'Angleterre et parce qu'il y avait la grève, on a décidé de changer notre plan de venir aujourd'hui.
C'est le retour qui l'inquiète, comme Jean-Noël Bordelais le week-end, commercial à Paris la semaine.
Le prochain défi, c'est lundi matin, en espérant pouvoir prendre le train à 7h pour être au bureau à 9h30. Le télétravail au quotidien, ça risque d'être un peu compliqué parce que je fais un métier où je dois avoir des clients sur Paris.
Voie de droite à Montparnasse, ce sont les usagers du Transilien, affluence un peu plus précoce que d'ordinaire. Pas d'agacement contre les grévistes.
Ça va être paradoxal, mais je les soutiens à 100% en fait.
Patrice travaille dans le marketing.
La consigne qu'on a donnée aux équipes, c'est si ça continue, de télétravailler. Et puis voilà.
Et si ça dure, il ne sait pas. Gloria, étudiante en esthétique, est elle parée.
Demain, en fait, on reste chez nous. Nos profs, ils nous ont fait une plateforme de vidéoconférence pour qu'on fasse les cours chez nous. En fait, notre plateforme, elle est mise en place pour un mois, pour être sûr que si jamais il y a des soucis, qu'on puisse assister aux cours quand même. C'est organisé, tout est prévu.
Ce soir, beaucoup de monde et du calme. Ça devrait se compliquer un peu demain matin avec l'entrée en grève de la RATP.
Oui, 11 lignes de métro seront fermées, aucun RER aux heures creuses à la RATP et vendredi ne devrait guère être mieux. Des perturbations aussi dans les airs, on parlait hier soir d'Air France. EasyJet annule 233 vols demain, intérieur et moyen courrier. Son côté, le gouvernement a demandé aux plateformes de VTC de ne pas trop augmenter leurs tarifs. La grève touche aussi les soignants, les avocats, les commissariats symboliquement, les écoles, les enseignants, Alexis Morel, qui seront parmi les plus mobilisés demain.
Le ministre l'admet lui-même, il faut s'attendre demain à une forte mobilisation. 55% de grévistes dans les écoles primaires selon les chiffres de l'administration qui se base sur les déclarations d'intention que doivent remplir les professeurs des écoles. C'est à Paris que le taux de grévistes sera le plus fort, au moins 78% dans le premier degré, c'est historique. Mobilisation très importante aussi en banlieue parisienne mais aussi dans les académies de Rennes, Montpellier ou encore Aix-Marseille. Dans la capitale, il n'y aura aucun enseignant dans la moitié des écoles, 300 sur 650. Concernant les collèges et lycées, moins de certitude car les profs du second degré ne sont pas tenus de se déclarer à l'avance. Mais au ministère, on évoque la fourchette d'au moins 30 à 50% de grévistes. De son côté, le syndicat SNES prévoit qu'au moins 6 enseignants de collège ou de lycée sur 10 cesseront le travail demain.
Près de 250 manifestations sont prévues partout en France avec des interdictions par endroit, par crainte de débordement comme dans le secteur des Champs-Élysées à Paris. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir Sébastien.
La capitale où près de 6000 policiers et gendarmes seront mobilisés.
Oui, 6000 policiers et gendarmes sur le pavé parisien et 180 motards de la police dans les rues de la capitale. Effectif maximal à deux roues, a précisé tout à l'heure le préfet de police de Paris qui a donné deux mots d'ordre pour demain. Mobilité et rapidité pour faire face aux casseurs. Plusieurs centaines de casseurs pourraient se mêler aux cortège parisien, des radicaux de tous bords, des black blocs et des ultra-jaunes qui pourraient être au total plusieurs milliers infiltrés dans les défilés dans toute la France. Le ministre de l'Intérieur a appelé les leaders syndicaux à chasser ces casseurs qui viendraient dans les manifestations comme un coucou dans le nid d'un autre, je cite Christophe Castaner. Le préfet de police de Paris, lui, demande à l'ensemble des manifestants d'aider les forces de l'ordre en dénonçant les casseurs. Didier Lallement assure qu'il tient à ce que la manifestation parisienne puisse démarrer et cheminer. Rappelons que le mois dernier, il avait fait annuler un cortège après l'éclatement de violence en tout début de manif, place d'Italie.
Sophie Parmentier, pourquoi seront-ils dans la rue demain ? 100 témoignages d'auditeurs de France Inter à retrouver sur le site franceinter.fr. Inter qui sera encore perturbé demain, à la fois avec la grève contre la réforme des retraites et le projet de suppression de postes de la direction de Radio France.
Et les Républicains parlent d'opération de brouillage de La République En Marche.
Ces soutiens localement aux candidats ou aux maires sortants LR pour les municipales de mars. C'est le cas par exemple à Toulouse pour Jean-Luc Moudin qui étiquette En Marche puis LR. Bonsoir Karine Becker.
Bonsoir.
Et ce sera la même chose à Meaux pour Jean-François Copé.
Alors c'est un petit peu plus subtil que cela. Jean-François Copé, l'ancien président de l'UMP, ne sera tout de même pas soutenu par La République En Marche. En revanche, il ne devrait pas avoir de candidat de la majorité face à lui, ce qui est bien sûr un petit peu différent. En fait, le mouvement du président localement a tenté d'afficher une tête de liste à laquelle il vient de décider finalement de renoncer. Ce qui n'est pas pour déplaire évidemment à Jean-François Copé, même s'il est élu maire depuis 21 ans maintenant de la ville de Meaux et réélu en 2014 dès le premier tour avec 64% des voix. Cet après-midi, il rappelait sa très bonne relation avec le président Macron, sans doute parce qu'il lui faut songer à attirer désormais les électeurs de La République En Marche. Et puis, il a précisé dans le même temps que cet actuel gouvernement n'était certainement pas un adversaire, comme c'était le cas à l'époque de François Hollande. Ça, c'était plutôt pour rassurer son propre électorat. En tout cas, belle opération à droite pour Jean-François Copé qui peut espérer récupérer l'électorat modéré, souvent parti chez Emmanuel Macron.
Karine Bécard.
Une plainte contre l'agence de l'adoption.
Deux associations accusent l'organisme public de discrimination homophobe. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Elle reproche à l'AFA d'avoir relayé certains critères des pays d'origine.
Oui, ces critères, ces conditions requises pour pouvoir adopter dans tel ou tel pays. Sur le site de l'agence française de l'adoption, on peut lire par exemple, pour la Chine, qu'une femme célibataire doit fournir une attestation sur l'honneur de non-homosexualité. Pour le Togo, que les candidatures des couples de même sexe sont rejetées. Même chose pour le Vietnam. Selon l'avocat des associations Mousse et Stop Homophobie, Maître Desoulières, l'agence fait du zèle en refusant ces candidatures.
Même si effectivement le dossier était envoyé au Vietnam et qu'au Vietnam il était refusé en application des lois vietnamiennes, l'agence française de l'adoption ne peut pas appliquer en France des critères discriminatoires. C'est commettre en France un délit pénal que de refuser à des personnes l'adoption en raison de leur orientation sexuelle.
L'AFA, elle, réfute en bloc ces accusations pour sa directrice générale Charlotte Giraud. C'est une méconnaissance totale du droit sur l'adoption à l'international, droit qui impose d'ailleurs d'autres discriminations liées à l'âge, au revenu et même au poids des adoptants.
On n'est pas comme en matière d'adoption nationale, il y a une vraie différence dans la mesure où les conditions d'adoption sont des conditions fixées par les pays d'origine auxquelles doit se conformer l'agence.
Et par conséquent, l'agence préfère directement orienter les célibataires ou couples homosexuels vers les pays où ils peuvent adopter, la Colombie et le Portugal.
Hélène Chevalier, la suite du procès de l'affaire Élodie Kulik aux assises de la Somme, viol et meurtre qui remonte à 2002, long interrogatoire cet après-midi. Midi de l'accusé, Willy Bardon, qui plie Corinne Audouin, mais qui ne rompt pas.
À la barre, Willy Bardon ne varie pas. Je n'y étais pas. Je maintiens que je suis étranger à ces faits-là. Il s'applique, répond poliment, calmement aux questions. L'avocate générale fait diffuser des écoutes téléphoniques de 2013. On y entend un Willy Bardon différent, inquiet, volubile. Il insulte les gendarmes quand il apprend qu'il est peut-être soupçonné. Au téléphone, sa compagne lui dit que les enquêteurs n'ont pas identifié d'autre ADN que celui de Grégory Viard. Ah, répond-il. Ah, de soulagement, d'étonnement, difficile à dire. C'est au tour de Didier Seban. L'avocat de Jacques Kulik insiste sur les propos de Willy Bardon en garde à vue après qu'il a écouté l'appel passé par Élodie Kulik aux pompiers. Vous dites, il y a ma voix dedans, mais j'ai aucun souvenir. Vous l'avez signé, votre avocat aussi. Ça n'a jamais été ma voix, répond l'accusé. Je l'ai dit sous la pression de la garde à vue. Aujourd'hui, on m'écrase. La douleur de Monsieur Kulik, elle est incomparable. Mais moi aussi, j'ai de la douleur. Il a le visage rouge. Je le redis calmement, ce n'est pas moi. Il promet, s'il est acquitté, d'aider à trouver la vérité, parce que, dit-il, il restera toujours un doute sur moi.
Corinne Audouin qui vous propose aussi sur le site d'Inter le témoignage du père d'Élodie, Jacques Kulik. C'est une découverte exceptionnelle qui a été faite l'été dernier et que l'Institut de recherche archéologique préventive dévoilait aujourd'hui. Une statuette de femme, une Vénus qui remonte au Paléolithique supérieur. Une œuvre d'art préhistorique donc de 4 cm de haut, enfouie dans le sol d'Amiens depuis 23 000 ans et que Sébastien Sabiron a eu la chance de voir avant son exposition au musée d'Amiens.
Elle est à peine plus haute qu'un capuchon de stylo. Une poitrine opulente, un ventre rebondi, des fesses proéminentes. Une statuette de culture gravétienne extrêmement bien conservée sous 4 mètres de sédiments. Clément Paris, archéologue à l'INRAP, est responsable des fouilles.
Ce qui est important sur celle-ci, c'est qu'elle est entière et qu'elle a des détails, notamment au niveau de la coiffure, représentés par différentes incisions sous la forme d'un quadrillage qui délimite un visage sans détail anatomique. Il faut s'imaginer sculpter un tel objet dans des blocs de craie et réaliser des détails aussi fins que la coiffure, hein, avec des incisions de l'ordre du millimètre, avec un objet en silex.
La Vénus a été mise au jour dans le quartier de Renancourt, au sud-ouest d'Amiens. Témoignage très rare de la présence d'Homo sapiens dans le nord de la France en pleine période glaciaire. Ce campement-ci n'aurait duré que quelques semaines en automne. Dominique Garcia, président de l'INRAP.
Les populations de ces périodes-là sont des populations nomades et qui regroupent en fin de compte quelques familles. Ces populations de chasseurs-cueilleurs étaient en fin de compte présentes à proximité des troupeaux de chevaux qu'ils étaient en train de chasser, donc leur territoire, c'était celui des chevaux.
En 5 ans, sur ce site, 15 statuettes ont été découvertes, moins bien conservées que celle-ci. Une pièce exceptionnelle parmi une centaine de Vénus de ce type, des Pyrénées jusqu'à la Sibérie.
Eux ont fait Brest, Brest via Rio et le Cap en 28 jours, 23 heures et 24 minutes. À la voile, en ultime, ces maxi trimarans de 32 mètres qui s'élèvent au-dessus de l'eau avec leur foil. Vitesse moyenne 45 km/h. Course remportée par le tandem Camas-Caudrelier ce matin. Franck Camas soulagé ici au micro de Frédéric Collat de France Bleu Brésisel.
C'est toujours dur et bon hein, les courses à la voile. Il y a des moments difficiles, mais on y va aussi pour ça. Parce que c'est intense, parce qu'il y a du stress, parce qu'on se sent sur le fil, parce que c'est une vraie aventure, on prend des risques. Et forcément, sur ces bateaux qui vont à ces vitesses-là, en pleine nuit noire, on sait pas trop où on termine. Et voilà, et quand ça se passe bien, bah c'est une jouissance hein, d'avoir réussi à aller aussi vite sur ce parcours-là, avec ces bateaux-là. C'est toujours un challenge qu'on se donne. Et quand il y a la réussite au bout, c'est une vraie émotion pour l'équipage.
Et les prochains ne sont pas attendus avant vendredi soir en rade de Brest.
Merci beaucoup Sébastien Paour.